Bira FM, le journal.
Jean-Pierre Ramazani.
Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal de Guira FM. Plus de 16 millions de bébés sont nés dans des zones de conflit en 2015, selon un nouveau rapport de l'UNICEF. Suite du reportage de la visite du chef de la MINUSCA à Kagabandoro, le projet Londo de la Banque mondiale pour financer des travaux d'assainissement routier à travers la Centrafrique. Et quelques résultats du vote référendaire commencent à être révélés par l'ANE.
Guira FM.
Un nouveau rapport de l'UNICEF publié ce jeudi 17 décembre souligne que plus de 16 millions de bébés sont nés dans des zones de conflit en 2015, telles qu'en Syrie ou en Centrafrique. Cela représente une naissance sur 8 dans le monde, un chiffre qui montre la vulnérabilité de plus en plus d'enfants. Le porte-parole de l'UNICEF à Genève, Christophe Boulierac, évoque le théâtre d'opération où naissent ces bébés. Il est au micro d'Alpha Diallo.
Alors ces théâtres d'opération, ils sont sur plusieurs continents. Je vais commencer par l'Afrique, par exemple, ce sont des pays sur lesquels nous attirons régulièrement l'attention. La République centrafricaine, où il y a des conditions extrêmement difficiles pour les enfants, avec notamment des tortures, mais aussi le Sud-Soudan, mais également dans la région de Syrie et également tout autour. Je reviens en Afrique également avec le Nigeria. Donc ce sont des régions où effectivement les enfants, lorsqu'ils naissent, voient déjà énormément de difficultés se dresser devant eux, à la fois leur maman, et tout au long aussi, lorsqu'ils arrivent à survivre, à passer le cap des 5 ans, ces difficultés continuent à les affecter dans leur évolution.
Nous reviendrons sur ce projet de l'UNICEF avec Christophe Boulierac, qui sera l'invité de la rédaction dans ce journal. Toujours dans le secteur humanitaire, à Bangui, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, travaille actuellement sur un programme de facilitation des sites des personnes déplacées pour suivre les tendances des déplacements à travers la RCA grâce au financement des États-Unis et du CERF, le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies. Les explications d'Anne Schaeffer, chef de programme de l'OIM en RCA.
C'est un programme où on vient de finaliser une formation des 65 personnes sur les méthodologies de suivre les tendances de déplacement dans tous les pays et surtout dans les axes des Boda jusqu'à Bangui, des Bangui jusqu'à Kagabandoro, des Kagabandoro jusqu'à Cabo Moyen Sido, des Kagabandoro l'autre direction en direction Ndélé à travers Bamingui et des Sibut jusqu'à Bambari.
Donc, vous suivez les déplacements des populations vers les sites?
C'est ça. Les déplacements des personnes vers les sites, les déplacements des personnes en retour chez eux, pour identifier les sites des déplacés dans les sites spontanés, mais aussi dans les familles d'accueil, et surtout d'identifier les lacunes humanitaires pour être capable de monter l'information vers le cluster et la communauté humanitaire, le gouvernement de la Centrafrique, pour amener une assistance aux personnes déplacées.
Guira FM.
Visite du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, mercredi à Kagabandoro, dans la préfecture de la Nana-Gribizi. Accompagné de membres du G8 et du gouvernement, Parfait Onanga Anyanga est venu s'enquérir de la situation à Kagabandoro après des incidents provoqués par des groupes armés le jour du référendum constitutionnel. La MINUSCA a rétabli le calme et plus de 90% des bureaux de vote de la Nana-Gribizi ont accueilli des électeurs dimanche, lundi et mardi. Suivez ce reportage de Marie-Chantal Lumba sur la visite du chef de la MINUSCA à Kagabandoro.
La visite commence au lycée polyvalent, lieu qui a hébergé l'un des plus grands centres de vote de Kagabandoro lors du référendum constitutionnel.
C'est une école.
Les élèves curieux sont venus à la rencontre de la délégation.
On aimerait les saluer au moins quelques-uns. Bonjour. Vous allez bien? C'est bien. Vous apprenez bien?
Oui.
C'est à l'école que le futur se fait. Hein?
Oui.
Derrière, il y a un ministre. Hein? Il y a monsieur le ministre Okambi.
Hein?
Merci beaucoup.
Merci. À vous également.
De retour au quartier général de la MINUSCA, la délégation visite le centre de compilation des résultats du référendum.
Ce sont les résultats, ça?
La délégation a eu plusieurs rencontres avec les autorités locales, les membres des démembrements de la NE les représentants de la société civile et la communauté humanitaire. Que ressort-il de ces rencontres? Parfait Onanga Anyanga.
Deux mots, l'extraordinaire civisme et patriotisme du peuple centrafricain. Nous sommes ici à Kaga-Bandoro, certainement l'une des régions du pays plus affectées par la crise sécuritaire et politique qui affecte le pays. Et de voir la volonté et la détermination des populations, des autorités locales également, d'accompagner leur peuple tout au long de ce processus électoral afin de s'assurer qu'elles puissent exercer leurs droits civiques est, je crois, la grande leçon que nous retenons. Et c'est notre responsabilité en tant que Nations Unies. Nous sommes venus ici avec l'ensemble du G8, RCA, pour conforter ces populations et les assurer de notre détermination justement à les accompagner.
Aristide Sokambi, ministre d'État, venu avec la délégation, invite les habitants de Kaga-Bandoro à rester confiants pour la sécurisation de la suite du processus électoral.
Contrairement aux menaces qui ont plané, on vient ici et on se rend compte que la population a bravé cette menace. Quelles que soient les escarmouches qu'il y a eu, quels que soient les coups de feu qu'il y a eu, est venue voter massivement. C'est une victoire sur le mal. Je me réjouis d'être venu ici avec nos partenaires, la communauté internationale, mais principalement la MINUSCA, qui s'occupe de la sécurisation de la République centrafricaine, appuyée par les forces sangaristes et par les forces de sécurité intérieure. Un groupuscule de gens ne peuvent pas se permettre de continuer à braver les Nations Unies, à braver la République centrafricaine impunément. Je crois que l'heure est aujourd'hui à opposer à ce groupe de gens une force militaire. La population ne peut pas continuellement être prise en otage de cette manière.
Par ailleurs, le centre de compilation des résultats du référendum de la Nana Gribizi a finalisé son travail mercredi. Les plis contenant les résultats, les bulletins de vote et autres documents sont envoyés à Bangui pour la suite du processus de compilation.
Bamingui Bangoran est l'une des préfectures de la RCA qui a connu quelques perturbations lors du scrutin référendaire de dimanche. Des groupes armés ont interrompu le vote dans certains centres, notamment en Ndélé. Les renforts de casques bleus de la MINUSCA ont permis de rétablir l'ordre. Le préfet Abdoulaye Mahamat s'exprime sur la sécurisation du processus électoral au sortir d'une réunion à Kaga-Bandoro entre les autorités locales, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RCA et le G8 RCA.
La situation en Ndélé, c'est que la MINUSCA a envoyé des renforts au niveau de Ndélé. C'est cela qui a permis aussi à la sous-préfecture de Bamingui de pouvoir voter. Bamingui a voté, Kotisako aussi a voté, le village Kotisako a voté avant les perturbations. Et donc pour la préfecture, c'est quand même quelque chose, en attendant de voir comment on peut régler les failles pour que les futures élections présidentielles et législatives se tiennent normalement. Je sors comme ça d'une réunion à Kaga-Bandoro. Et donc des promesses ont été faites pour rassurer la population, pour essayer de régler tout dans le sens que les élections prochaines se tiennent.
Il faut signaler que 30% de la population banguissoise inscrite sur la liste électorale ont participé au scrutin référendaire du 13 décembre 2015. Selon les résultats provisoires et partiels publiés le 17 décembre par l'Autorité nationale des élections, le oui l'emporte à plus de 90% dans la ville de Bangui. Le porte-parole de l'ANE, Julius Rifengwa de Baba, est au micro de Boris Ngouagouni.
Au terme des dispositions du Code électoral de la République centrafricaine, l'Autorité nationale des élections rend public les résultats des différents scrutins au fur et à mesure de la transmission des procès-verbaux des bureaux de vote vers le centre de traitement des données. Suite donc au scrutin référendaire du 13 décembre 2015, les procès-verbaux de toutes les circonscriptions de la ville de Bangui ont été transmis au centre de traitement des données de l'Autorité nationale des élections et traités. Ceux des villes de province sont en partie parvenus au centre de traitement des données et le reste est en cours d'acheminement. En sa plénière du 17 décembre 2015, l'Autorité nationale des élections a examiné et validé les résultats provisoires et partiels de la ville de Bangui que j'ai l'honneur de rendre public ici. La péréquation pour la ville de Bangui nous donne 292 696 électeurs inscrits, un suffrage valablement exprimé de 86 963, soit un taux de participation de 30%. Le oui a obtenu 77 979 voix et le non 8 984 voix, soit 90% de oui et 10% de non.
Et dans la préfecture de la Haute-Coteau, le oui l'emporte à 94,47%. À en croire les propos des responsables de l'autorité sous-préfectorale des élections, les femmes ont massivement participé au scrutin référendaire. Les détails avec vous, Christian Balou.
Une observation dans plusieurs bureaux de vote permet de constater une affluence des femmes dans les files d'attente, ce qui indique que les femmes ont beaucoup participé aux opérations de vote. Ensuite, un entretien avec les membres de bureaux de vote révèle que les femmes ont massivement émergé sur la liste des votants.
On a l'effectif écrasant dans notre bureau de vote. On sait que les femmes ont bien participé aussi.
Dans votre bureau de vote, les femmes sont nombreuses.
Oui, elles sont nombreuses.
Le rapporteur général de l'autorité sous-préfectorale des élections de Briac confirme ce constat fait par ce président de bureau de vote en tenant compte des résultats définitifs des élections dans la Haute-Coteau. Florentin Guinalaou.
Compte tenu des résultats, nous avons constaté une légère amélioration du pourcentage des femmes par rapport aux hommes.
La forte participation des femmes à cette élection est une victoire pour son émancipation, estime la présidente des femmes leaders de la Haute-Coteau, Maïmouna Mbaroud.
Nous sommes partis au périphérique pour sensibiliser les femmes pour cette vote. Ça nous fait plaisir que c'est les femmes qui ont la plus de voix, plus que les hommes. Donc notre sensibilisation était bien réussie parce que c'est nous qui souffrons. Nous avons perdu notre mari, les enfants, nos frères. Donc c'est pour cela qu'on se lève pour voter, pour avoir la paix une fois pour toutes.
La paix passe par le vote du oui, selon certaines femmes, et le résultat général du vote référendaire dans la préfecture leur donne raison. Florentin Guinalaou est le rapporteur général de l'ASPE Briard.
Le taux de participation a été de 51,35%. Les bulletins nuls, 5%. Bulletins blancs, 1%. Suffrage valablement exprimé, 96%. Le oui fait 94% et le non fait seulement 5%.
Selon l'unité genre de la MINUSCA secteur Est, cette forte participation des femmes est mise au crédit du système d'information et de communication. Ce système a permis de tenir informées les femmes à tous les niveaux du processus électoral. Christian Balou, Guira FM, Briard.
Autre sujet, la Banque mondiale a prévu de dépenser 12 milliards de francs CFA en Centrafrique pour financer des travaux d'assainissement routier à travers tout le pays. C'est le projet Londo qui doit fournir du travail à 35 000 habitants des zones rurales. À Baoro, près de Boire, les travaux ont commencé depuis quelques jours et ils semblent profiter à tout le monde. Adrien Blanc.
C'est la fin d'une journée de travail pour Urbain, jeune employé du projet Londo. Habillé d'une chasuble orange, il pousse sa brouette pleine d'outils. Urbain est l'un des 250 ouvriers qui travaillent à Baoro en ce moment.
J'ai fait le travail pour la rue là-bas, vers Canon. Il y a beaucoup de véhicules qui passent là-bas. Et puis on fait la caniveau, la canard pour la pluie. Les herbes qui sont proches de la rue, on nettoie tout ça. Ça va aider la population. On gagne pour 60 000 francs, pour 40 jours.
Le maire Joseph Gérard Ngama regarde les ouvriers travailler avec bienveillance.
Ça, c'est la première fois d'avoir une ONG qui a mené un développement dans le cadre de l'urbanisation, de l'entretien des rues, dans les principaux acteurs qui lient le nord au sud à 20 km, de l'est à l'ouest à 20 km. On avait enregistré plus de 1500 jeunes désœuvrés, déscolarisés, fils d'éleveurs, de cultivateurs, de pêcheurs, des artisans miniers et quelques étudiants qui ont perdu leur place. Et il n'y aura que 500 jeunes. Vous savez, nous voulons que ces projets reviennent encore pour la deuxième fois.
Dans une deuxième phase, 250 ouvriers supplémentaires poursuivront les travaux et ceux qui auront terminé leur contrat seront encouragés à reprendre leurs études ou bien se lancer dans le commerce ou l'agriculture.
Invité de la rédaction. Guira FM.
Retour sur l'actualité avec ce nouveau rapport de l'UNICEF, publié jeudi 17 décembre, selon lequel plus de 16 millions de bébés sont nés dans les zones de conflit en 2015. Dans les pays touchés par un conflit, les nouveau-nés et leurs mères courent d'énormes risques. Les bébés ont une probabilité plus grande de mourir avant l'âge de 5 ans et de vivre dans des conditions de stress extrêmes. Explication du porte-parole de l'UNICEF à Genève, Christophe Boulierac. Il est interviewé par Alpha Diallo de la Radio des Nations Unies à Genève.
Christophe Bolera, vous êtes porte-parole de l'UNICEF à Genève. Au nouveau rapport, l'UNICEF note que plus de 16 millions de bébés sont nés en 2015 dans des zones de conflit. Quels sont ces théâtres d'opération qui enrichissent une naissance sur 8 dans le monde?
Alors, ces théâtres d'opération, ils sont sur plusieurs continents. Je vais commencer par l'Afrique, par exemple. Ce sont des pays sur lesquels nous attirons régulièrement l'attention. La République centrafricaine, où il y a des conditions extrêmement difficiles pour les enfants, avec notamment des tortures, mais aussi le Sud-Soudan, mais également dans la région de Syrie et également tout autour. Je reviens en Afrique également avec le Nigeria. Donc ce sont des régions où effectivement les enfants, lorsqu'ils naissent, voient déjà énormément de difficultés se dresser devant eux, à la fois leur maman, et tout au long aussi, lorsqu'ils arrivent à survivre, à passer le cap des 5 ans, ces difficultés continuent à les affecter dans leur évolution.
16 millions de bébés nés en 2015 dans des zones de conflit, ça veut dire que toutes les 2 secondes, un nouveau-né prend son premier souffle en plein conflit. Peut-il y avoir un pire départ dans la vie pour ces enfants?
Ben non, c'est vraiment une concentration de difficultés pour ces enfants, ces nouveaux-nés qui arrivent sur Terre toutes les 2 secondes. Pourquoi ? D'abord, on va commencer par leur maman. Il n'y a aucune assistance médicale lorsque ces enfants naissent. Ensuite, pour eux-mêmes, évidemment, il faut bien voir que tous les risques pour eux sont exacerbés. Des risques liés à, évidemment, à la santé, mais également des risques liés au stress. Il y a évidemment un stress toxique. Ces enfants, lorsqu'ils vont grandir, vont avoir des problèmes pour s'alimenter, pour aller à l'école. Ils vont avoir des problèmes d'accès aux soins de santé primaires. Ils vont avoir des problèmes également de protection. Donc, dans un conflit, il faut différencier les zones marquées par la pauvreté où il n'y a pas de conflit et les zones de conflit, parce que lorsque dans un conflit, tous les problèmes de pauvreté, d'inégalité dans l'accès aux soins sont exacerbés. Donc, c'est vraiment des situations, lorsqu'un nouveau-né naît dans un pays en conflit, c'est vraiment une situation où toutes les difficultés sont exacerbées, toutes les difficultés auxquelles le nouveau-né fait face sont amplifiées.
Tout de même, est-ce que le rapport a constaté les mêmes caractéristiques dans les différentes zones de conflit? C'est-à-dire, est-ce la même chose pour un enfant qui naît dans la vieille ville de Homs qu'un enfant qui naît aussi au kilomètre 5 de Bangui en République centrafricaine?
Il y a des points communs et il y a des différences. Chaque conflit n'est pas semblable à l'autre. Que se passe-t-il par exemple en République centrafricaine? Il y a des affrontements, il y a des enfants qui sont horriblement tués, horriblement torturés. Et il y a évidemment des problèmes d'accès aux soins, d'accès à une bonne nutrition. Il y a des problèmes psycho-émotionnels. Les enfants vivent dans un climat de violence. Donc ça affecte leur développement émotionnel, cognitif, etc. Alors c'est la même chose en Syrie, sauf que il y a ici plus une situation de bombardement. Mais lorsqu'on parle de Syrie, évidemment, il faut englober tous les enfants qui naissent dans des déplacements lorsque leurs parents, leurs mamans, qui sont souvent qui partent, qui fuient les violences, qui fuient les persécutions, elles fuient enceintes, souvent l'enfant né en route, ou bien on voit même, j'étais dans les Balkans il y a quelques semaines, des mamans qui fuient avec leur bébé, et là encore, c'est une situation qui cristallise beaucoup, beaucoup de difficultés, que déjà des enfants qui naîtraient dans un pays pauvre mais sans guerre connaîtraient. Là encore, c'est amplifié.
Alors, pour ces enfants d'Alep en Syrie ou bien ces enfants de Bambari en République centrafricaine, qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de l'UNICEF et de la communauté internationale pour traduire ces promesses en actes pour ces enfants les plus vulnérables en 2016?
Pour l'UNICEF, nous, on travaille de toute façon avant. On travaille dans les pays avant qu'il y ait un conflit, on travaille pendant le conflit, on travaille après le conflit. L'urgence est dans ces situations-là. Pour les enfants, c'est de faire en sorte qu'il y ait une aide qui sauve des vies, qui sauve d'abord, vous savez qu'il y a la mortalité infantile, c'est souvent lié à des morts d'enfants quelques heures après leur naissance. Donc c'est sur cela qu'il faut s'atteler d'abord, avec notamment des kits d'urgence pour les mamans dans les conflits. Il faut également former du personnel médical qui peut aider les mamans de façon très pragmatique à pouvoir accoucher dans des situations difficiles, mais avec un minimum de conditions sanitaires. Et puis, il y a également de l'aide qui permet aux enfants de survivre, avec notamment juste mettre à disposition des médicaments, des vaccins. des moustiquaires avec des insecticides et de l'eau et de l'assainissement évidemment pour que les enfants ne succombent pas aux maladies diarrhéiques. Il faut également vous mentionner qu'il y a également beaucoup d'enfants qui sont affectés, c'est surtout le cas en Afrique notamment, par les conséquences du changement climatique. On a aujourd'hui en Somalie, en Éthiopie, au Malawi, des enfants qui sont affectés par l'effet El Niño, qui est en cours actuellement. Ça se traduit par des inondations, ça se traduit également par des sécheresses.
Christophe Boulerac, merci beaucoup.
C'est ainsi que s'achève ce journal de Guira FM. Il a été réalisé grâce à la contribution rédactionnelle de Maha Fayek, Samuel Bogoto, Boris Ngagoni, Julio Itade, Marie-Chantal Lumba, Christian Balou, Adrien Blanc, avec l'assistance technique de Aimé Doudou. Au micro, Jean-Pierre Amissi Ramazani. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir écouté ce journal. Restez branchés sur Guira FM à la fréquence 93.3.
Vous étiez à l'écoute du journal de Guira FM.